19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Vous êtes sur Radio U et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U. Ce soir, du local, mais aussi, une fois n'est pas coutume, un peu de national. Si vous avez ne serait-ce que tendu l'oreille en direction de l'actualité ces derniers mois, vous avez forcément déjà entendu parler de la loi dite sécurité globale, qui porte notamment sur les pouvoirs de la police municipale, la captation d'images par drone par exemple, et la diffusion de l'image des policiers. Depuis novembre 2020, elle fait polémique et a soulevé de très nombreuses inquiétudes et protestations. Parmi ces articles, l'article 25 qui prévoit que les fonctionnaires de police et gendarmes puissent porter leurs armes en dehors de leur service, dans des lieux accueillant du public. 8 organisations artistiques s'inquiètent de cette loi et ont signé un communiqué. Parmi ces organisations, le SMA, le syndicat des musiques actuelles. Pour en discuter avec nous en deuxième partie d'émission, nous recevrons Gwen Potard, directeur de la CAREN et membre du SMA. On entame cette émission avec une initiative solidaire. Nous avons eu l'occasion de l'aborder à de nombreuses reprises ces dernières semaines. La crise sanitaire touche particulièrement les étudiants et les étudiantes. Déjà précaires, leurs conditions se sont empirées avec les mesures sanitaires mises en place. Et nombreux sont ceux travaillant notamment dans l'hôtellerie-restauration ou le secteur de la culture qui ont perdu les petits boulots qui leur permettaient de joindre les deux bouts. Le site de France Inter relaye que selon les derniers chiffres du chômage publiés depuis janvier, au troisième trimestre 2020, 21,8% des jeunes de 18 à 25 ans étaient au chômage, soit 619 000 jeunes, ce qui représente une hausse de 16% en un an. Dans ce contexte, les initiatives solidaires sont plus que nécessaires. L'Agorae fait partie de ces initiatives. Gérée à Brest par la FEDEB, c'est une épicerie sociale solidaire créée par des étudiants et destinée aux étudiants. Pour soutenir cette initiative, le club de foot de Plouzanet s'est mobilisé. Jean-Jacques Pote, président du club, nous a rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour.
Salut Pierre-Louis, je crois que tu t'es intéressé à cette initiative.
Oui, tout à fait, hein, vous le savez, moi le sport ça m'intéresse, la solidarité aussi, et bien votre club bien connu sous le nom de PAC, qui fête d'ailleurs ses 80 ans hein, cette année, a fait preuve de solidarité, Jean-Jacques Pote. Vous l'aviez annoncé et vous avez tenu parole. La semaine dernière, vous avez fait don à l'Agorae, l'épicerie sociale solidaire étudiante de denrées alimentaires et de produits hygiéniques pour un total d'environ 2000 euros. Cet argent vient en fait de la fédération suite à votre victoire au 6e tour de la Coupe de France. Vous avez également prévu de faire un don à l'association Fait du Bonheur qui apporte son soutien aux enfants hospitalisés en les aidant à réaliser leurs rêves. L'association a un projet de réalisation de jeux de loi au sein de l'hôpital Morvan à Brest. D'où viennent ces idées ?
Elles viennent, un, de la situation et du contexte actuel. Elles viennent de notre conseil d'administration qui, à l'unanimité, a décidé de redistribuer une partie du gain obtenu donc en Coupe de France. Alors le contexte, ben, on le connaît, vous l'avez présenté en introduction du propos et de l'émission. On sait que c'est pas tous les jours facile pour les étudiants aujourd'hui à Brest comme ailleurs. On a voulu que l'opération soit locale, qu'elle impacte directement sur la vie quotidienne des jeunes, en l'occurrence des étudiants. Le fait qu'on ait choisi des étudiants comme cible, probablement que on y était sensibilisé aussi par, je crois qu'il y a eu un article ou deux. Qui était paru sur la situation des étudiants dans la presse locale, qui n'était pas que mirobolante. Et du coup, comme la volonté de notre association était de rendre peut-être dans ce contexte-ci, de rendre davantage à ceux qui le méritent, peut-être plus que des footballeurs, même si on n'est qu'amateurs, on a souhaité que les étudiants soient destinataires les premiers de ce concours financier. Alors je précise une chose, on a donné 2000 euros ou équivalent produits alimentaires ou hygiéniques, vous l'avez dit, aux étudiants. Cette mise a été doublée par l'enseigne Super U quand même, et qu'il faut noter, ainsi que par le groupe Le Sein. Ce sont des entreprises qui nous aident au niveau de notre club de foot et qui ne sont pas restées insensibles à l'initiative qu'on avait prise et donc qui ont souhaité la relayer et abonder, jugeant que effectivement il y a peut-être certaines priorités, du moins moi c'est l'analyse que je faisais au niveau du conseil d'administration du PAC Foot, en disant que lorsque la Coupe de France a été relancée, parce qu'elle a été relancée un peu brutalement et sans on va dire véritable concertation, on mesure bien les uns et les autres que il y a certes des enjeux sportifs, mais il y a d'autres enjeux qui nous échappent, hein, en partie qui on va dire sont à l'origine du restart de la Coupe de France. Je précise quand même que quand on a commencé à rejouer, on y a vite repris goût, hein, parce que même si on est un peu sevré de foot depuis quelques mois, j'avoue que au bout de quelques instants, on avait vite repris l'ardeur et l'envie de jouer au foot et de gagner lorsqu'on était en compétition à Bégard. Et justement, c'est suite à ce match-là que on a obtenu les 7500 euros. Mais pour nous, ils avaient une certaine saveur. Mais dans le contexte, même si nous-mêmes, à l'échelle de notre club, la situation n'est pas la plus facile ni la plus exemplaire, hein, parce que on subit également ce que subissent toutes les associations, hein, on n'a plus d'action, on n'a plus d'activité culturelle, on n'a plus de rassemblement, on ne fait plus d'action collective. On n'organise plus d'événements. Ces 7500 euros étaient les bienvenus. Mais je pense que il y a plus malheureux que nous. Et du coup, on a fait ce choix-là.
C'est-à-dire que la solidarité, en plus, c'est une des valeurs les plus importantes du sport collectif. Donc ça collait bien dans cet esprit-là. En fait, vous retrouvez tout simplement vos valeurs, non ?
Bon, c'est une valeur fondamentale, hein. Lorsque vous êtes sur un terrain de foot, si vous jouez seul, ça marche pas. Vous avez vu hier soir, si vous avez vu le match de Paris Saint-Germain, que c'est beaucoup plus joli quand une équipe joue ensemble, et les uns avec les autres, et courent les uns pour les autres. Donc, si vous rentrez sur un terrain de foot sans être solidaire, ça marche pas. Vous pouvez pas jouer sans les autres. Donc, et dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme ça. Et peut-être que dans le contexte actuel, on s'en rend encore un peu plus compte, ou du moins, nous, on a voulu, quelque part aussi, un peu éveiller les consciences. La Coupe de France est réapparue, je vous le disais tout à l'heure, on s'est interrogé véritablement sur l'opportunité qu'il y avait à rejouer la Coupe de France moitié du mois de janvier, comme ça, tout d'un coup. Et moi-même, j'ai posé la question à mon conseil d'administration de savoir s'il était opportun de rejouer. Je ne suis pas le seul à m'être interrogé là-dessus. D'autres clubs se sont interrogés. On a même fait un courrier au président de la Fédération française de foot en disant que c'était une décision assez inique et assez irresponsable compte tenu du contexte, hein, même si dans le Finistère on est assez préservé du point de vue sanitaire, mais bon, on entendait il y a trois semaines, un mois, commencer à parler des variants divers et variés qui commençaient à trotter dans l'atmosphère. Et du coup, j'ai rencontré moi les joueurs, parmi lesquels il y a des étudiants, hein, et d'ailleurs deux d'entre eux sont venus remettre les denrées la semaine dernière. J'ai rencontré nos joueurs et je leur ai fait part de notre position, nous, de plus adultes, quoi. Après, moi, je comprends qu'un jeune qui a 20 ans, lorsqu'on lui dit « tu veux jouer au foot ?» J'ai eu 20 ans, je voulais jouer au foot, mais je voulais aussi faire autre chose. Mais le foot, c'était quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, je sais qu'ils sont privés, ou les jeunes de 20 ans, sont privés de beaucoup de choses. Et que je pense que cet instant-là ou ces instants-là qui leur ont été procurés étaient des instants importants. Donc, je leur ai laissé la possibilité de choisir. En tout cas, j'ai jamais essayé de les convaincre de ne pas jouer. Donc, ils ont décidé de jouer. Voilà. Ils ont gagné, mais je leur ai dit que si on gagnait, je leur rendrais un petit peu à eux, parce qu'ils le méritent. Hein. Ils sont venus s'entraîner à 6 heures du matin. Bon, je pense qu'il y a de meilleures conditions pour s'entraîner. Ils ont continué à s'entraîner dès qu'ils ont pu, à partir du mois de décembre. J'ai dit qu'une partie de ce qu'on avait gagné devait peut-être revenir à des associations ou à des œuvres ou à des situations un peu plus difficiles que le club de foot. Et puis, on garderait une partie pour essayer de combler un peu notre déficit, parce que quand vous ne faites plus de loto, quand vous n'avez plus les vendredis des délais, quand vous n'avez plus les tournois, etc., etc., bah, vous perdez des recettes, hein, vous perdez des... Voilà. Donc, on est logé à la même enseigne que les autres, peut-être moins pire. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Et qui a eu une portée, hein. Vous relayez l'initiative dans votre émission aujourd'hui. Elle a été très largement relayée également au niveau national. On a eu 140 000 vues sur Twitter. Bon, voilà, ça fait parler de nous. Moi, j'ai été sollicité directement par un journaliste de l'équipe. C'est toujours intéressant, quoi. Voilà. Et ça fait parler du club. Voilà.
Et pour revenir à l'Agorae, en fait, le lien s'est tissé grâce aux joueurs étudiants dont vous parlez. Ça s'est fait comment?
Non, je crois qu'il y a eu, les semaines qui ont précédé, un article sur la situation d'étudiants et sur l'action que, pardon, que Agorae avait engagée, et sur le fait qu'elle sensibilisait également le public et la population sur la situation des étudiants dont vous parliez tout à l'heure, qui ne travaillent plus, qui n'ont pas les petits boulots, etc., etc. Et donc, dans le conseil d'administration, il y a quelques-uns à avoir vu ou entendu cela. Et donc, c'est pas forcément par l'intermédiaire des étudiants qui sont chez nous que les choses se sont passées. Nous, on a pris, après la victoire, bien entendu, on a pris contact très rapidement avec l'association, parce que on avait le sentiment qu'il y avait une certaine situation d'urgence. On a pris contact avec l'association et j'ai demandé, moi, aux personnes, parce que moi, personnellement, je n'avais pas la disponibilité pour m'en occuper, j'ai demandé aux personnes qui s'en chargeait au sein de l'association, donc chez nous, du PAC, de s'assurer que l'argent arriverait au bon endroit et servirait à ce à quoi il devait servir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a relayé ça auprès de nos partenaires qui ont doublé la mise. Hein. Il faut quand même le dire. Hein. Et c'est pas neutre et de bon cœur hein, également. Donc, on avait dans mon conseil d'administration, j'ai une personne qui travaille à la mission locale qui connaissait assez bien Agorae, qui l'a évoqué lors du conseil d'administration qui précédait le match. Mais on n'a pris aucun contact avant le match, bien entendu, quoi.
Alors, Jean-Jacques Pott, président du PAC Foot, vous l'avez dit, le club est très impacté, que ce soit sur la vie associative, que ce soit financièrement. Est-ce que vous pensez que vous allez être obligé de vous réinventer, que ce soit d'un point de vue associatif ou d'un point de vue financier sur le modèle économique du foot amateur?
Ça, je peux pas le dire à cette heure-ci. Il y a une chose qui est certaine, c'est que on subit des pertes de licenciés. On était 727 très exactement la saison dernière. On est aux alentours de 650 cette année, et c'est une, on va dire, c'est une donnée qui traverse l'ensemble des clubs de sport, de foot également, d'autres domaines également, hein, mais on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là.
Oui, sur juste une précision en termes de chiffres, les chiffres de l'Office des Sports, c'est une baisse d'environ 30% de tous les effectifs, hein, sur voilà, tout sport confondu.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas perdu 30% d'effectifs au PAC, mais on reste aussi Alors après, les moyennes cachent des disparités. On reste un sport d'extérieur. Donc aujourd'hui, moi je souhaite que l'on puisse, dans la mesure du possible, faire pratiquer les enfants, les adolescents et les seniors, même si pour les seniors c'est un peu plus compliqué parce que à 18h il y a couvre-feu, donc il n'y a plus de foot. Hein. Donc par contre, pour les enfants, les mercredis, on reste investi parce que on sent que c'est un moment qui est important pour eux, comme on reste investi également sur le centre de loisirs qu'on a, qui existe depuis pas mal d'années et qui répond et apporte un service à la population locale. Voilà. Donc après, dire qu'il y aura un nouveau modèle économique, je pense que ça concerne peut-être davantage les clubs pro que les clubs amateurs, parce que nous, notre modèle économique, il est ce qu'il est. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si nous, on est impacté comme n'importe qui, nos partenaires, les gens qui nous soutiennent, en termes de mécénat ou en termes de partenariat financier également, le font dans la limite de leurs moyens. Et si leurs moyens sont amputés, effectivement, les conditions peuvent évoluer et changer. Pour l'instant, on n'a pas non plus constaté qu'il y avait une désertion de nos partenaires, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est moins en mesure de leur rendre la monnaie de la pièce, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'expositions, sauf éventuellement ce genre d'exposition qui m'a valu des messages, certes de gens qui extérieurs, hein, au PAC, qui ont trouvé ça plutôt sympa et innovant et qui n'hésitaient pas à dire que peut-être que c'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus, mais j'ai également reçu des retours de la part des partenaires, et l'exemple de Super U et de l'entreprise de Saint à travers les denrées alimentaires est un très très bon exemple. J'ai également reçu des retours de partenaires qui sont pas dans l'alimentaire, mais qui m'ont dit qu'ils étaient fiers d'être partenaires du PAC parce que ils se retrouvaient dans ce type d'action et dans ce type d'investissement. Voilà. Après, dire qu'il y aura un nouveau modèle, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on va attendre. Je pense que le maximum peut-être de nos pratiquants, de nos adhérents soient peut-être vaccinés et que les choses puissent un petit peu se tasser. On gardera certainement l'avantage d'être un sport pratiqué en extérieur, à l'inverse d'autres sports comme le basket ou le hand, qui eux sont un peu plus exposés, bien évidemment, aux difficultés si elles viennent ou reviennent à se poser, quoi.
Et justement, une dernière question, comment vous envisagez la fin de la saison et puis la saison prochaine ?
La fin de la saison, je ne peux pas dire ce qu'elle sera. À l'heure qu'il est, je ne peux pas dire ce qu'elle sera. Peut-être que demain, on aura un peu plus d'informations, puisque le comité exécutif de la Fédération française de foot se réunit justement pour faire le point sur ce qui doit reprendre, peut reprendre ou ne peut pas reprendre. Sans trahir le secret, je pense que nous qui sommes en National 3, on risque de ne pas rejouer. Je pense qu'ils vont arrêter les choses au niveau de la Nationale 2, qui est plus, entre guillemets, moins amateur que nous, plus pro, ou prétend l'être en tout cas. Et du coup, c'est fort possible que ces championnats-là reprennent et qu'il y ait un statu quo sur le championnat National 3. Après, c'est dépendant de plein de choses dont on entend parler depuis un an. Ce sont pas les choses les plus faciles à gérer. Je veux dire, nous, on est dans le wagon, hein, donc on suit, on porte le masque, on met du gel, on respecte les gestes barrières, on fait attention. Voilà, c'est la règle du jeu du moment, jusqu'à ce que, peut-être, non pas on revienne à la situation d'avant, parce que j'ai entendu parler d'un monde d'avant et d'un monde d'après, mais en tout cas, qu'on retrouve un peu plus de sérénité dans la vie associative, dans nos vies associatives et dans la pratique sportive. Parce que faut savoir quand même que lorsqu'on a joué les matchs de Coupe de France, là, on les a joués en étant testés deux fois par semaine, deux jours ou trois jours avant le match et la veille du match. Ce qui en soi peut paraître absolument épouvantable, moi, qui me choque un petit peu, hein, parce que c'est la Sécu qui le paye, mais qui est une donnée qui intéresse l'État quand même. Parce que d'une semaine sur l'autre, ils se rendraient compte que notre groupe de 25-26 personnes testées n'évoluait pas. On n'est pas passé tout d'un coup de 25 négatifs à 25 positifs. Donc, toutes ces données-là consolidées au niveau national, ben, vous donne un taux d'incidence, ou au niveau local, vous donne un taux d'incidence. Donc, c'est une donnée qui est exploitée par, par les data, les machins, et puis qui fait que ben, vous pouvez conduire ou tenter de conduire au mieux une politique de santé ou une politique sanitaire dans le moment. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Jean-Jacques Pott, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coprésident du PAC, le club de foot de Plouzané. On précise le PAC foot parce qu'il y a aussi le PAC rugby.
Exactement, merci.
Vous écoutez C'est vous qui le dites, la la quotidienne d'info locale de Radio U.
Don't ask how that sounds. I'm
Saigon, It's Already Tomorrow sur le 101.1, un titre fraîchement sorti sur le nouveau label brestois Too Good To Be True. Désolé pour l'accent anglais, pas exceptionnel. Vous écoutez, c'est vous qui le dites, et on s'intéresse maintenant à la loi sécurité globale. Il s'agit d'une proposition de loi française des députés LREM Alice Toureau et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, déposé à l'Assemblée nationale en octobre 2020. Cette loi comporte plusieurs articles et porte notamment sur les pouvoirs de la police municipale, la captation d'images par drone par exemple, et la diffusion de l'image des policiers. Depuis novembre 2020, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour protester contre cette loi, en cause notamment l'article 24, qui prévoit de sanctionner la diffusion d'images de policiers sur les réseaux sociaux, remettant notamment sérieusement en cause la liberté d'informer des médias. Et dans un contexte où les violences policières font déjà polémique. En décembre 2020, le Conseil de l'Europe exhorte le Sénat d'amender le texte, considérant cet article comme une atteinte à la liberté d'expression. Fin janvier 2021, la CNIL a rendu son avis sur la loi en ce qui concerne la protection des données personnelles, notamment en ce qui concerne les captations d'images par drone, et considère qu'en l'état, le cadre juridique envisagé n'est pas suffisamment protecteur de la vie privée des données personnelles. Mais l'article qui nous intéresse ce soir, c'est l'article 25, concernant le port d'armes des fonctionnaires de police et des gendarmes en dehors de leur service dans des établissements accueillant du public. 8 organisations artistiques s'inquiètent de cette loi et ont signé un communiqué. Parmi ces organisations, le SMA, le syndicat des musiques actuelles, dont fait partie la Carène. Pour en discuter avec nous ce soir, Gwen Potard, son directeur. Bonjour Gwen.
Bonjour.
Les établissements accueillant, recevant du public, c'est très vaste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par ce terme en fait ? Quels établissements seraient concernés par cet article ?
Alors du coup, les établissements recevant du public, c'est toute enceinte, si je prends les textes de sécurité incendie, parce que c'est lié à ça en fait, c'est toute enceinte qui est fermée et qui peut accueillir du public. Donc ça veut dire que c'est évidemment un bâtiment public et un ERP, donc un établissement recevant du public, mais un établissement de plein air, ça existe. C'est-à-dire que si je prends le site des Vieilles Charrues, c'est un établissement de plein air. Le site d'Astropolis, ici en local, c'est un établissement de plein air. Donc en fait, toute enceinte qui va, d'un seul, pour un temps donné, accueillir du public, invité ou payant, en fait, c'est un ERP. Donc c'est-à-dire que tous ces lieux-là sont concernés.
C'est énorme en fait, ça concerne, ouais. C'est très très large. Avant de revenir sur le communiqué du SMA, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est finalement déjà en vigueur en ce moment concernant le port d'armes dans les ERP ou plus particulièrement peut-être dans les salles de spectacle?
Alors du coup, on va dire la règle et la norme, c'est quand même se dire que c'est des lieux sans armes. On est dans des lieux festifs, on est dans des lieux culturels, des lieux d'expression artistique. On n'est pas dans des lieux où le port d'armes est la norme. Depuis 2015, donc depuis les attentats du Bataclan, il y a des nouvelles normes qui sont entrées en vigueur. Hein. C'est quand même un gros traumatisme pour la profession, mais pour la France entière, on va dire. Dans les évolutions de la loi, le port d'armes par les fonctionnaires de police en dehors de leur service était autorisé sur l'espace public avec des règles. Hein. Ils ont des obligations d'exercice régulier, d'en faire part à leurs supérieurs. Bon, voilà. Donc, c'est des choses qui sont autorisées. Après, l'entrée dans un ERP était à la discrétion et au bon vouloir et à l'autorisation du gestionnaire du lieu.
Est-ce qu'il y a des exemples, en fait, de salles qui aient dû user de ce droit ?
Alors, ça arrive relativement souvent. Je pense notamment, alors quand je parlais des festivals, je pense que c'est les plus concernés de manière régulière. Hein. Il y a des dispositifs conjoints entre de la sécurité et puis les forces de l'ordre. Et du coup, la question de voir des fonctionnaires en armes sur les sites, ça s'est vu au VHRU, ça s'est vu à Astropolis. Nous, on a eu le cas à la Carène, mais on l'a eu, et je vais pas dire étonnamment, on l'a autorisé, mais la démarche nous avait paru suffisamment peu cavalière pour qu'on l'autorise. C'était sur une soirée où la personne a prévenu en amont, avant de venir. On a eu le temps de vérifier avec le commissariat que la personne allait effectivement venir avec son arme, en famille, ce qu'on trouve toujours étonnant, hein, concrètement, mais on a pris sa carte professionnelle à l'entrée, on savait qu'il allait venir, il n'y a pas eu du coup de choc de découvrir une arme quand on fait une fouille, donc voilà, sur ce coup-là, on a laissé passer, on s'est quand même posé plusieurs fois la question, mais vu le contexte de soirée, vu l'événement, on s'était dit que bon, voilà, le risque était relativement limité, même si on n'y est pas favorable de base.
Qu'est-ce qui pose, quand le SMA communique, là, ces 8 organisations, et vous, qu'est-ce qui pose fondamentalement problème dans cet article ?
Je pense qu'il y a une question de mesure d'un bénéfice-risque. C'est toujours la même chose, en fait. On se dit, d'un certain point de vue, de ceux qui ont rédigé la loi, on va dire que c'est pour plus de sécurité. En tant que professionnel de gestion de ces lieux, d'accueil de public, de gestion de la fête, on voit bien que gérer des espaces comme cela, avec des armes qui potentiellement circulent à l'intérieur, ça pose plus de problèmes et plus de risques que de bénéfices. Je pense à plusieurs situations possibles. Découvrir quelqu'un qui va au milieu de la foule, on va sentir son arme parce qu'on est voisin et qu'on le frotte on croise dans la foule. Je pense que ça va créer plus de panique et plus de stress que de rassurer le public. La gestion de l'entrée, nos agents de sécurité passent leur temps à faire de la palpation, ça depuis longtemps, mais ça a été renforcé avec les plans Vigipirate. Mais c'est-à-dire qu'on doit vraiment fouiller et interdire tout objet qui peut devenir une arme par destination ou une arme tout court, d'être en capacité à faire un filtre à l'entrée entre une personne qui va faire une fausse carte de police avec une arme et un vrai policier. Comment on arrive à faire ça? Donc en fait, on va finalement ouvrir plus de possibilités d'entrer dans la salle en termes de risque que de gestion de la sécurité, quoi. Voilà.
Ouais, parce que l'argument mis en place par ceux qui sont favorables à cet article, c'est le fait qu'un policier armé peut se protéger, mais peut aussi protéger en cas de problème. Mais finalement, ce que le SMA, en l'occurrence, met en avant, notamment dans ce communiqué, c'est cette question de la sécurité qui est donc discutable.
Ben c'est ça. En fait, ouais, vraiment, je pense qu'on évalue mal et... Je pense qu'il faut vraiment se rappeler que les gens qui gèrent ces festivals, qui gèrent ces lieux, sont des professionnels. C'est-à-dire qu'on est tous, comme je disais, on a tous été, c'est pas nouveau, mais on a tous été traumatisés par tous les événements, et notamment, je pensais au Bataclan. Depuis, on a renforcé largement les mesures de palpation, de fouille, de gestion. Voilà, on préfère travailler en bonne intelligence avec la police et en amont, et je pense notamment au festival, pour être capable de gérer tout moment de crise et tout phénomène non anticipé, on va dire. Mais en fait, on les anticipe, toutes ces situations. Donc voilà, je pense qu'il y a le risque est de notre point de vue beaucoup plus important. Après, je vais pas remonter sur des anecdotes parce qu'elles sont vieilles, mais de festivals qu'on connaît où effectivement des gens sont rentrés avec leurs armes pour faire la fête. Ils étaient en civil et du coup on retrouve une arme sur le site. Ou voilà, bon, c'est des petites anecdotes, mais on peut se dire que elles sont illustratives de soucis potentiels, quoi.
Vous regrettez, vous, que sur ce type de texte de loi, les parties prenantes, notamment les salles de spectacle, et on sait qu'elles sont, et notamment les structures culturelles qu'on sait fédérer, il y a quand même des choses au niveau culturel, des syndicats, des groupements, des collectifs, qu'elles ne soient pas plus consultées sur des mesures comme ça ?
Ça se fait régulièrement a posteriori, malheureusement, effectivement, c'est comme précédemment la circulaire Collomb, c'est des choses sur lesquelles il faut se battre longtemps après pour pouvoir...
La circulaire Collomb concernait la présence des policiers
la sur... facturation
la
des
facturation,
forces, voilà, et du coup voilà, c'est des questions de fond qui concernent radicalement le secteur et de pas être associé en amont au bien fondé ou non de ce genre de prise de décision pose vraiment des questions. Et là, effectivement, il y a comme je dis, c'est des organisations, il y a le SMA là-dedans, mais quand on regarde toutes les fédérations qui ont signé le communiqué, ça représente à peu près tous les lieux culturels, les structures culturelles, pas toutes, mais la majeure partie institutionnelles ou pas d'ailleurs, mais voilà, de structures de professionnels qui savent travailler et mesurer le risque, quoi.
Selon vous, pourquoi cet article il a été ajouté à la loi Sécurité Globale ? À quoi il répond ?
Bonne question. Je pense à une demande de la police principalement là-dessus. Hein. C'est dans la ligne des évolutions de texte suite à 2015. En fait, on est sur quelque chose qui était une entrée qui nécessitait autorisation. Là, on repasse sur quelque chose qui s'inscrit de manière durable, enfin, qui voudrait s'inscrire de manière durable dans les textes. Ouais.
On le disait, il y a des choses qui sont déjà mises en place. Qu'est-ce qui est mis justement en place dans les salles, dans les festivals, en termes de mesures de sécurité actuellement ?
Si je prends l'exemple des festivals, qui est peut-être le plus gros, il y a un vrai travail en amont avec la police. Il y a un plan de sécurité et de sûreté qui existe. Il y a des équipes de sécurité professionnelles. Il y a des PC sécu qu'on appelle des fois multiservices sur les gros événements. Donc, c'est-à-dire qu'au même PC sécu, on a les pompiers, la police, la gendarmerie quand on est sur une zone de gendarmerie et de l'organisation pour faire que tout événement remonte à ce PC et puis toute réaction est prise de manière graduée et mesurée. Donc, qu'il y ait de la police en armes en périphérie du site pour éviter justement l'arrivée d'un problème. Mais une fois qu'on est dans le site, s'il n'y a plus d'armes à l'intérieur du site, voilà, le site devient une zone sûre. Donc je pense que c'est la question de l'amont et de la sûreté amont qui va être importante. On pourra pouvoir pocher à l'organisateur de pas avoir pris toutes les mesures à l'intérieur d'un site. Bon, évidemment, il y a la palpation, il y a le lien direct avec les autorités, les visites de sites, on tient au courant régulièrement ses partenaires en fait, des partenaires des forces de l'ordre.
Est-ce que la sécurité dans les salles ou les festivals, elle a besoin d'être renforcée ? Est-ce que cette loi, pour vous, elle répond à une nécessité ? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait être fait plutôt que du coup d'autoriser des policiers hors service à pénétrer avec leurs armes dans des lieux publics ?
Qu'elle ait besoin d'être renforcée, je pense pas. Pas partout, il y a plein d'endroits où les dispositifs ont quand même vraiment pris un degré de renfort assez énorme depuis quelques années. Donc le travail il est fait, il est bien fait. Je pense que de renforcer les moyens des forces de l'ordre pour pouvoir être présentes sur ces événements en amont et de bien travailler avec les organisateurs main dans la main pour faire que ça se passe bien. Je pense que la question du renfort elle est là. En fait, c'est de renforcer le lien et renforcer la confiance mutuelle. Je pense que c'est là où il faut travailler.
Jean-Jacques Pott, je me permets de vous réinterpeller sur cette question-là, parce que finalement, vous, sur la question justement du club de foot, vous pouvez être amené à avoir justement du public comme ça, donc j'imagine que vous êtes aussi concerné finalement par cet article-là. Quel regard vous portez sur cet article 25 ?
J'avoue n'y pas y avoir réfléchi, j'ai suivi d'assez loin cette question-là. Nous, tous les événements sont connus, mais certains font l'objet de déclarations bien spécifiques, notamment dès lors qu'on atteint un certain niveau de... Justement, on parlait de Coupe de France tout à l'heure, donc avec un public un peu plus important, etc. On est comme indiqué M. Potard, on s'inscrit dans des cadres, on va dire, légaux, qui prévoient des déclarations en bonne et due forme, un travail en amont s'il y a lieu, afin de sécuriser l'éventuelle venue ou arrivée de spectateurs, parce que c'est plutôt ce genre de choses parfois qui posent problème, même si à notre niveau, à nous, on n'a jamais rencontré ce genre de difficultés. C'est plus dans les clubs professionnels que les choses peuvent se passer, parce que nous, les chambrées qu'on organise ou qu'on reçoit sont relativement légères, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que la question de la sécurité, c'est une question qui a profondément évolué depuis l'affaire du Bataclan, bien évidemment, et que tout organisateur aujourd'hui, quel qu'il soit, se la pose avant que d'organiser quelque chose, surtout s'il doit recevoir beaucoup, beaucoup de monde. Alors, il y a des procédures qui existent. Là, il y a une proposition de loi qui vaut ce qu'elle vaut, qui peut-être inscrit dans la loi ce qui n'était pas inscrit dans la loi et qui était entré dans les us et coutumes un peu sur le pouce, sur le coin de la table après le Bataclan. Je ne sais pas s'il faut se priver de tous les dispositifs ou toutes les solutions possibles. J'en sais rien. J'ai pas forcément d'avis arrêté sur le sujet. Mais dans tous les cas, sur certains événements, se donner le maximum de moyens pour que ça se passe le mieux possible passe sûrement par, comme le disait M. Potard, par un travail en amont, en confiance. En intelligence qui permet d'assurer que le public sera accueilli dans de bonnes conditions et en toute sécurité, quoi.
Ouais, parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que sur les lieux festifs, comme vous le précisiez, Gwen Potard, on est sur des lieux où les gens font la fête, peuvent être amenés à boire aussi, donc la présence d'une arme, c'est elle est aussi à prendre dans ce contexte-là.
C'est ça, ouais. Le critère festif crée la panique, les mouvements de panique seraient plus rapides, moins contrôlables, on va dire, dans un espace comme cela, ouais.
Avec le SMA, vous interpellez sur les dangers de cet article. Donc la proposition de loi relative à la sécurité globale, elle a été enregistrée à l'Assemblée nationale le 20 octobre 2020. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale en novembre 2020 et elle doit encore être validée par le Sénat. Quel recours il est encore possible d'envisager à ce stade-là ?
L'attente en fait et la mobilisation de toutes ces organisations, c'est d'interpeller les sénateurs pour qu'il y ait des amendements déposés et qu'il y ait des modifications ou des ajustements sur cet article. Après, il y a le Conseil d'État qui peut regarder ou pas la question de constitutionnalité, qui est un point qui est regardé aussi par le SMA. Là, du coup, alors c'est moins mon domaine et je serais peut-être moins à l'aise, mais la question de que quand on n'est plus en service, on redevient un citoyen normal et que du coup d'avoir le droit de porter une arme là où d'autres n'ont pas le droit, ça pose des questions aussi. Donc ça c'est des choses qui seront étudiées, je pense, un peu dans le détail sur des questions de droit et de fond. Après il y a des recours qui sont possibles dans ces cas-là au Conseil d'État, tribunal administratif. Bon voilà, c'est tous ces recours contre les textes administratifs qui existent. Ouais.
Dans tous les cas, je pense qu'il y a des décrets, des arrêtés, non, qui suivent. Je sais pas.
Il y aura sûrement un décret d'application qui précisera.
Si la loi est
qui précisera
votée,
les termes.
Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, l'idée étant d'amender le texte.
Le texte dans en amont, ouais.
Une question plus large pour finir. On parlait en introduction de la loi en général et des autres articles qui ont posé problème. La Commission nationale consultative des droits de l'homme voit dans cette loi, en général, une nouvelle étape de la dérive sécuritaire en France. Gwen Potard, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement ?
Alors après, là, du coup, moi, je parle en tant que direction d'un établissement public, donc je vais pas spécialement donner mon avis là-dessus, mais c'est vrai que c'est des... Alors là, du coup, vraiment, si j'enlève cette casquette-là et à titre tout à fait personnel, ouais, c'est des questions de fond que je me pose sur ces textes. C'est pointé par des institutions très sérieuses, la question de dérive sur des questions de droits de l'homme. Donc, à partir du moment où on touche à ces fondamentaux, ça me pose toujours question.
Merci Gwen. On croise fort les doigts pour que la prochaine fois qu'on reçoive la Carène, ce soit pour parler des concerts en prévision.
Ce serait bien.
Et on se retrouve bientôt pour Stud Radio à la Carène la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U. Avant de retrouver c'est bon, la pause musicale se lance. titre qui fait du bien dans la grisaille ambiante. R avec le titre ce matin-là sur le 101.1 FM.
L'économie autrement.
Et le sujet se lance avant que je le lance. Vous écoutez, c'est vous qui le dites. On retrouve notre rendez-vous quotidien qui était vraiment pressé d'arriver. L'économie autrement. Cette semaine, on s'intéresse à CEAPI, un tiers-lieu d'échange, de coopération et de solidarité en pays de Brocéliande. Dans l'impossibilité d'ouvrir un tiers-lieu physique, les membres de l'association CEAPI vont créer des temps éphémères le samedi matin sur le marché de Montfort-sur-Meux. Illustration autour de l'économie circulaire et le groupe de travail animé par Nausicaa Mack. C'est tout de suite.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Et donc ils voulaient proposer ça avec, en tenant un petit peu la main quelque part, entre guillemets, en conditions sanitaires un peu respectées. Métaphoriquement, je veux dire, aux personnes pour qu'elles s'autorisent en fait à s'exprimer.
L'économie circulaire, en fait, autrement dit, ce serait comment tendre vers une économie plus vertueuse. C'est favoriser des activités qui ont le moins d'impact carbone possible et qui demandent le moins de ressources, qui font appel à moins de ressources possibles aussi. Donc à Montfort, chacun a sa manière et c'est en fait de tendre vers l'économie circulaire. Moi par exemple, j'ai décidé de me reconvertir, donc j'ai ouvert une épicerie vrac à Montfort et ce afin de justement d'apporter une solution aux Montfortais, qu'on puisse avoir le choix de consommer autrement.
Quel type d'action vous allez pouvoir mener le samedi matin sur les marchés ?
Alors sur le thème de l'économie circulaire, on a pensé axer sur le zéro déchet. Donc avec par exemple une sensibilisation sur le zéro déchet, quel type d'action on peut mener pour passer au zéro déchet ? Ça peut être un atelier de compost. Voilà, comment faire son compost chez soi ou créer un compost, je sais pas, de quartier par exemple. Des ateliers do it yourself, donc des ateliers où on apprend à faire soi-même toutes sortes d'objets. Ça peut être des produits d'entretien, comme ça peut être de la couture. Voilà, c'est assez vaste. Il pourrait y avoir un stand de troc, par exemple. Je pense au troc d'objets, mais pas que, de services aussi. Il pourrait y avoir un endroit où il y aurait une proposition d'objets de seconde main. Et puis également un atelier de réparation et puis des stands de sensibilisation, de proposition de consommation alimentaire par exemple alternative. Je pense par exemple des produits fermiers, voilà, une mise en avant des produits locaux. Voilà, comment manger autrement.
Vous allez vous appuyer sur d'autres partenaires, des associations qui travaillent déjà, Nausicaa ?
Oui, du coup on a contacté pas mal d'autres associations. On est en train de tisser vraiment des partenariats au fur et à mesure. Il y en a certains qui sont solides, hein, qui sont confirmés, et il y en a d'autres qui sont en cours. Mais l'idée, c'est voilà, effectivement, pouvoir montrer au travers de différents samedis, durant le marché, tous les sujets que pourraient, toutes les activités que pourrait offrir le tiers-lieu. Montforté.
Rendez-vous donc au marché de Montfort-sur-Meux les samedis matins. Vous savez quand vous allez démarrer ?
Il me semble que c'est en avril, fin mars, début avril.
On est encore en train de demander les autorisations. Donc voilà, c'est un projet qui est en train de se co-construire avec la municipalité. Et du coup, voilà, ça demande effectivement de l'organisation, des accords. Et ensuite, voilà, chaque collectif pourra monter son stand un samedi matin et voilà, avancer sur différents thèmes.
Vous avez hâte d'y être, Nausicaa, sur
oui,
le marché ?
Oui, évidemment.
Vous aussi, Thomas ?
Oui, et puis surtout après une année, effectivement, un petit peu off, pouvoir travailler sur du concret, là, c'est effectivement, on a vraiment hâte. Ouais.
Ce reportage a été réalisé par la CoreLab. Retrouvez-le en podcast sur corelab.org.
CEAPI, un reportage réalisé par Florian de Radio Laser. Retrouvez un nouvel épisode autour de ce tiers-lieu d'échange, de coopération et de solidarité en pays de Brocéliande demain. Et cette nouvelle production de l'économie autrement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de notre réseau La CoreLab avec Ascoria autour de la saison des expérimentations innovantes et solidaires. C'est vous qui le dites, c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions Jean-Jacques Pott, président du Plouzanais Assez Foot, dans le cadre de leur action de solidarité en faveur de l'Agorae, l'épicerie sociale et solidaire pour les étudiants. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le club sur le site du club. Et pour plus d'informations sur l'Agorae, rendez-vous sur le site de Radio U dans la rubrique Actu ou sur notre carte Murmure pour réécouter notamment le reportage que nous lui avons dédié. Nous avons également eu l'occasion de discuter avec Gwen Potard, le directeur de la CAREN, de l'article 25 de la loi de sécurité globale. Vous pouvez retrouver le communiqué autour de cet article sur le site du SMA, le syndicat des musiques actuelles. Nous, on se retrouve demain, mais restez branchés sur le 101.1. À 20h, rendez-vous pour Radio Muse. Allez à la rencontre des musiques actuelles, des musiciens, des producteurs. Radio Campus France, Radio Orange à Vienne, Radio Student à Ljubljana et Radio Student à Zagreb échangent, partagent et font découvrir leur musique à travers toute l'Europe. Cette semaine, on ne quitte pas l'Hexagone avec un épisode consacré à Zenzile, produit par Radio Campus Angers. Et à 21h, retrouvez un nouvel épisode de Soundtest, l'émission d'Antoine consacrée aux bandes originales de jeux vidéo. Bonne soirée Pierre-Louis.
Ben merci, bonne soirée Morgane, bonne soirée à tous et désolé pour les petits pains techniques.
Bonne soirée à tous les deux, merci encore de nous avoir accompagnés ce soir et tout de suite c'est le retour de la playlist Bonne soirée sur Radio U. This the wrong man, and you get slaughtered.
But fuck your niggas, sir. You know I'm bad, I'm so bad, I've murdered a rock.
You're a bad man. You're a very bad man.
I'm coming from this land that we christen Atlantis. I'm dropping threes like when Danny was with the Celtics. I'm up with, and you down with this. Good to go until I'm finished, yeah. People see me skanking like I'm up in the shade. Like I got no bills and I got it made. It's alright, cause I never fade. Might slip twice, homie, but I was born brave. Clubs love my music, they be playing me loud. People see me in the club without drugs allowed. I'm not proud as a peacock, but I sold my cock so I can move with the crowd. Haters call me names with insulting tones, but my beats keep on moving till they shake their bones. It's all good, I don't watch no hate. Come here, come on, eat this love off the plate.
Questions after, shot them all fit for grains of pasta. How this never run without master. How them gun get them pussy blaster. This the wrong man and you get slaughter. Shot in a face will bring a disaster.
On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland?